Hey, salut les amis! Bienvenue sur Paris au Clock, le podcast qui vous parle de culture française en français facile. Moi, c'est Aurélie, je suis professeure de français à Paris et vous pouvez me retrouver sur mon site parisauclock.com ou sur mon compte Instagram. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour un nouvel épisode de mon podcast. Salut Louisa!
Salut Aurélie!
Ça va?
Oui, ça va. Et toi?
Oui, merci. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
Merci à toi.
Je suis vraiment super contente de t'accueillir sur mon podcast. Donc aujourd'hui, tu vas nous parler de ton expérience dans la mode. Tu as fait un master à Paris, dans le secteur du luxe et de la mode. Et ensuite, tu as fait un stage. Donc tu vas nous raconter tout ça dans un instant. Et tu vas aussi nous parler de ton expérience avec le français, parce que le français, ça n'est pas ta langue maternelle.
Non.
Tu vas nous expliquer un petit peu d'où tu viens et comment tu as appris le français. Et je suis sûre que ton expérience va être très utile et très inspirante pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui sont intéressées par le secteur de la mode. Mais avant de parler de tout ça, est-ce que tu peux commencer par te présenter en quelques mots, s'il te plaît?
Oui, bien sûr. Merci beaucoup Aurélie pour m'avoir invitée à cette podcast. Moi, je m'appelle Louisa, je suis italienne, comme vous pouvez entendre par mon accent. Et je viens de Toscane. Et ma ville originelle s'appelle Follonica. C'est pas une grande ville, mais il est plein vraiment de touristes pendant l'été parce que on a la mer, on a la plage, et c'est vraiment joli pendant cette moment de l'année. Et du coup, moi, j'habitais en fait à Follonica jusqu'à quand j'avais 18, 19 ans. Et c'est là que j'ai fait toutes mes études à l'école et tout ça. Et la première fois, en fait, que j'ai décidé de partir, c'était quand j'avais 18 ans, quand j'ai fait une audition pour une académie de danse qui s'est trouvée à Nice, dans le sud de la France. Parce qu'en fait, moi, même si j'avais vraiment une grande passion pour les études et tout ça, mais j'ai jamais abandonné la danse. C'est pour ça que j'ai fait cette audition et quand j'ai été acceptée, j'ai déménagé à Nice. C'était vraiment challengeant, surtout pour la langue.
Est-ce que tu avais déjà appris le français à l'école avant de partir ou pas?
Non, pas du tout. C'était D'accord. vraiment difficile au début, surtout parce que je n'avais jamais étudié à l'école. Et du coup, je n'avais pas la base de grammaire.
Ouais. Donc, quand tu étais à l'académie, tu avais bien sûr des cours de danse classique, je crois,
oui,
c'est ça?
Oui, c'était une école où on avait vraiment différents types de cours parce qu'on avait surtout la danse classique, et la danse moderne et aussi la danse contemporaine. Mais on avait aussi quelques cours de théorie sur, par exemple, l'histoire de la danse, l'histoire des théâtres, aussi, par exemple, l'histoire de l'anatomie du corps, vraiment pour avoir un peu un 360 degrés.
Sur la danse.
Oui.
Et est-ce que tu avais des cours de français aussi?
Non, pas du tout.
D'accord, waouh.
Non, en fait, je dois dire que, comme je disais avant, c'était vraiment difficile au début parce que, bien sûr, tous les professeurs, la majorité des professeurs étaient français. Les premières semaines, j'allais au cours et tout le monde me parlait pour me corriger et moi, j'entendais rien du tout. Mm-hmm. Mais après, je dois dire, heureusement, après quelques mois, je pouvais vraiment presque tout entendre. Mm-hmm. Et après 5-6 mois, je pouvais commencer vraiment à le parler. Malheureusement, après 8 mois dans cette académie, j'ai eu une blessure au dos. Et du coup, c'est pour ça que j'ai dû prendre la décision de quitter la danse. Et bien sûr, c'était pas une chose très heureuse à faire, mais ouais. Quelquefois dans la vie, c'est normal qu'on doit accepter les événements qu'il y en a.
Bien sûr.
Et du coup, ce que j'ai décidé de faire, c'était vraiment de trouver quelque autre chose pour laquelle prouver la même passion que j'avais pour la danse. Et je pense en fait que c'est pour ça que j'ai choisi de commencer au début à étudier l'économie, mais avec l'objectif déjà de me spécialiser dans le marketing. Parce que je le voyais un peu comme un secteur où on pouvait exprimer notre créativité et tout ça.
Donc après ton passage à Nice, tu es retournée en Italie, c'est ça, pour aller étudier le marketing?
Oui, exactement, exactement. D'accord. Au début, j'ai passé quelques mois chez différents docteurs pour mes...
Pour te réparer.
Oui, exactement.
On pourrait dire ça.
Et en fait, oui, pour quelques mois, je me suis préparée pour faire des tests d'admission pour entrer dans des universités d'économie. Et à la fin, j'ai été acceptée dans une université qui se trouve à Rome. Et du coup, j'ai déménagé une autre fois. Et là, j'ai commencé mes études.
D'accord. Alors après, est-ce que tu as directement fait ton master à Paris ou est-ce que tu as travaillé un petit peu avant de faire le master?
Alors non, en fait, Paris fait partie un peu de la dernière partie de ma vie parce que après ces 3 années à Rome, j'ai fait un master et pour le faire, j'ai déménagé aux Pays-Bas pour me spécialiser dans un international management. Et surtout, une autre fois, sur le marketing. Et après cette expérience, j'ai commencé à travailler. Et j'ai déménagé une autre fois pour rentrer en Italie parce que j'ai été acceptée en tant que stagiaire chez L'Oréal.
Super! Et qu'est-ce que tu faisais en quelques mots chez L'Oréal? Quel était ton poste?
C'était dans le département du marketing. Et au début, j'étais stagiaire. Après, j'ai été embauchée. Et le poste s'appelait chef des produits.
D'accord.
Dans quelques mois, mon travail, c'était vraiment un peu trié par deux parties. En partie un peu plus analytique, d'analyse et des tendances des marchés et tout ça. Dans l'autre partie, c'était un peu plus un travail aussi très créatif avec des agences créatives pour gérer un peu tous les nouveaux lancements des produits que L'Oréal devait faire en Italie.
Et tu es resté combien de temps avec L'Oréal?
Au total, 2 années et demie.
D'accord. Donc, ce qui a commencé par un stage, finalement, s'est transformé en une belle expérience de 2 ans et demi. Super. OK. Et donc, au bout d'un moment, quand même, tu as voulu un petit peu changer et te réorienter vers la mode.
Oui, exactement. En fait, avant ça, j'ai fait une autre année d'expérience, mais chez Coty, qui c'était un compétiteur de L'Oréal. Mais c'est exactement vrai ce que tu dis parce que, en fait, j'ai décidé de suivre vraiment ce qui était mon rêve. Et c'était, en fait, de rester dans le secteur du marketing, mais dans le secteur de la mode. Et la raison pour laquelle j'ai postulé pour être acceptée dans cette master que j'ai fait, c'était parce que, en fait, je me suis dit, si je ne le fais maintenant, peut-être je ne vais jamais le faire. Et en fait, le monde de la mode et le monde du luxe, c'est vraiment un secteur un peu fermé. Je ne veux pas dire que c'est une règle, mais en général, les marques de la mode, la marque du luxe veut vraiment que la personne qu'ils vont embaucher a des bases, des études sur les secteurs.
D'accord.
Du coup, j'ai décidé de postuler pour faire cette master à l'Institut français de la mode. Et quand j'ai été acceptée, j'ai décidé de déménager à Paris.
D'accord. Donc, tu as choisi de faire un deuxième master, c'est ça, pour aller vraiment dans le domaine que tu as eu envie de découvrir.
Exactement.
Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce processus de peut-être d'admission?
Oui, absolument. Alors, en fait, il y avait surtout deux moments importants dans la sélection. Le premier, c'était en fait un dossier à remplir. Et du coup, après avoir rempli ces dossiers, l'université devait faire une sélection. Et si tu étais choisi, tu devais faire un entretien. Une partie de l'entretien, c'était pas facile, mais c'était OK. Une autre partie, c'était un peu plus challengeant parce que j'ai reçu en fait des photos de quelque chose qui ça concernait le monde de la mode. Et je devais faire des commentaires sur ça. Et du coup, c'était challengeant parce que bien sûr, tu peux avoir une culture très générale et tu ne sais jamais tout ce qu'ils vont te demander.
Et cet entretien que tu as passé, il était en français?
Non. C'était en anglais parce que, en fait, car je ne savais pas le français, moi, j'ai postulé pour un master qui était en anglais.
D'accord. Donc, tous les cours étaient en anglais.
Oui. Je dois dire que, parallèlement, je savais déjà que je voulais travailler en France. Du coup, je savais parfaitement qu'une fois que j'avais déménagé à Paris, je devais vraiment apprendre le français parfaitement parce que, comme je vais dire après, quand je vais expliquer la sélection pour mon stage, les entreprises à Paris, ils vont faire des entretiens en français. Pas toutes les entreprises, mais en général, surtout les entreprises dans le monde de la mode, ils préfèrent de le faire comme ça et c'est normal parce qu'en fait, pendant tout le stage, toute ton expérience, tu vas travailler en français.
D'accord. Donc en fait, le master, les cours sont en anglais.
Oui.
Après, il faut faire un stage. Et donc le stage, tu le fais où tu veux en fait. Certains veulent le faire à Paris, mais tu aurais pu le faire aussi dans un autre pays si tu avais voulu.
Oui.
Hein. C'était pas forcément à Paris. Voilà, d'accord. Mais toi, comme tu voulais le faire à Paris, tu t'es dit qu'il fallait quand même travailler un petit peu le
oui.
français pour le stage. Ok.
Absolument, oui.
Donc, on en reparlera un petit peu tout à l'heure. Et donc, comment ça s'est passé quand tu as eu la réponse pour le master? J'imagine que tu as dû être
oui.
très contente.
Oui, en fait, je ne vais jamais oublier cette journée-là. Je me souviens encore que quand j'ai reçu l'email, j'étais en train de travailler chez Coty et j'avais mon responsable à côté de moi. Et j'ai vu que j'ai reçu un email par l'université. Et du coup, oui, c'était absolument un moment inoubliable.
Ok, donc tu as reçu la réponse qui était positive. Donc là, j'imagine, tu commences à te préparer pour déménager à Paris. Est-ce que c'était facile d'aller s'installer à Paris? Est-ce que tu as trouvé un appartement facilement, par exemple? Ou est-ce que c'était un peu compliqué?
Alors, honnêtement, au début, c'était vraiment compliqué de trouver un appartement à Paris, je dois dire. Surtout parce que chaque fois que j'ai regardé, par exemple, sur les sites de quelques agences, des appartements pour lesquels j'étais vraiment intéressée, tout le monde me répondait en disant « Ah, génial, tu veux ça, mais au moins deux garants français sont nécessaires pour avoir cet appartement. » Et bien sûr, je n'avais aucun garant. C'était vraiment un peu un point challengeant et chaque fois que je voyais un appartement, c'était vraiment difficile de l'avoir. Mais enfin, j'ai rencontré une fille que je connaissais quand j'ai travaillé chez L'Oréal et heureusement, elle m'avait donné un contact d'une autre agence qui avait en fait des appartements pour lesquels ils n'avaient pas besoin de garants. Et en fait, je suis allée à Paris en août pour voir cet appartement qui c'était le seul disponible. Heureusement, les prix étaient OK pour moi et l'appartement était un bon appartement. Je pense qu'à la fin, même si c'était vraiment compliqué, j'ai eu de la chance et
d'accord.
Dans quelques jours, j'ai signé mon contrat et tout était prêt pour déménager.
Super, donc il ne faut pas se désespérer. Ça paraît
non.
un peu compliqué au début, mais bon, on
non,
finit
absolument.
Quand même par trouver.
Oui.
Donc, tu arrives à Paris, tu as ton appartement et là, tu commences ton master. Alors, est-ce que tu peux nous parler maintenant un peu plus du master, en quoi il consiste, peut-être nous parler un petit peu des matières étudiées?
Alors, le master était en fait un master sur le luxe et la mode au niveau international. Et je dois dire que, différemment de les études que j'ai fait avant, qui s'étaient vraiment, vraiment concentrées seulement sur le management, sur le marketing, sur le business, ici, on avait vraiment un peu des différents sujets. Parce que, bien sûr, le sujet principal, c'était surtout sur le management. Mais, par exemple, dans ma classe, on avait aussi beaucoup de personnes qui étaient intéressées à la partie un peu plus liée aux produits ou par exemple au secteur de la communication. On était 35 personnes et c'était très intéressant que presque tout le monde venait des pays différents. Oui, on avait beaucoup de personnes qui venaient d'Asie, quelques Américaines et oui, des autres parties d'Europe. La chose qui était vraiment intéressante, c'est que la note à la fin, c'était pas nécessairement donné par des tests un peu académiques, mais c'était vraiment par des projets qu'on devait faire en groupe. Et ça, pour l'université, c'était vraiment important parce que l'université disait chaque fois que ça, c'était un peu le monde du travail après. Au moins, je ne sais pas en France, mais en Italie, quand on va étudier à l'université, c'est vraiment, vraiment académique et théorique parce que c'est toujours que tu vas étudier un livre et après, il y a l'examen et c'est ça. Là-bas, à l'Institut français de la mode, c'était vraiment plein de projets. Et c'était aussi, en fait, normal, quelquefois, d'avoir pas des discussions dans le groupe, mais c'était vraiment challengeant, quelquefois, de travailler avec des personnes avec une culture différente, avec une langue différente et tout ça.
Est-ce que tu peux nous donner un exemple de projet comme ça que tu as fait?
Oui, Alors, en fait, dans le master, un des projets les plus intéressants, c'était pendant toute l'année, on avait des business cases qu'on devait faire avec des marques. Par exemple, une fois, on a fait un projet sur la marque Hermès. C'était intéressant parce qu'en fait, Hermès est venu directement à l'université pour nous parler de ces projets sur lesquels on devait faire en fait tout un projet un peu spécial. Ça, c'était pour Hermès, mais c'était un peu en général pour tous les autres cours. Chaque fois qu'on avait un projet, le professeur, dans ce cas Hermès, nous donnait un thème et nous disait « Sur ce thème, vous devez développer l'idée du futur. » Du coup, par exemple, imaginez la marque dans les prochaines 10 années. Vous devez vraiment faire un business plan sur les projets de cette marque, comment il doit changer, quelles sont les valeurs, tout ça qu'on doit garder, quelles sont les choses qui doivent partir, qu'est-ce qu'on doit faire pour conquérir encore plus les millennials, les Gen Z et du coup toutes les nouvelles générations. Et du coup, chaque fois, on avait en fait des thèmes un peu différents. On travaillait sur ces projets, par exemple, pendant 3-4 semaines. À la fin, on avait le jour où on devait vraiment présenter tous nos projets. On avait bien sûr un note.
Ouais, donc une particularité peut-être de ce master, c'est que dès le début, tu es vraiment en contact avec toutes les marques, les grandes maisons de luxe, les grandes maisons de la mode. Et donc, tu travailles avec eux, donc tu travailles sur des projets. Et ça représentait à peu près combien d'heures par semaine tout ça, entre les cours et les cours sur place, donc les cours dans l'école. Et puis après, il faut ajouter tout le temps que tu passes aussi avec ton groupe pour préparer les projets.
Oui, franchement, je me souviens que moi, pendant presque tous les week-ends de toute l'année du master, j'ai seulement travaillé sur les projets. Parce qu'en fait, moi, maintenant, j'ai fait l'exemple d'un projet, mais par semaine, on travaillait quelquefois sur 3, 4, 5 projets.
En même temps.
Oui, et du coup, c'était vraiment, vraiment challengeant. Mais en général, nous, on était à l'école, je pense, par jour, au moins 6 heures, peut-être.
Ah oui, quand même, d'accord.
Oui, du coup, c'est beaucoup. Et moi, parallèlement, je devais étudier le français.
Et oui, il y avait les cours de français aussi. Alors, justement, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu as fait pour travailler ton français?
Alors, en fait, c'est comme ça que nous, Aurélie, on s'est rencontrés.
Bah oui.
Et en fait, moi, le moment que j'ai dédié vraiment aux études de la langue française, c'était en général, si je ne me trompe pas, quelquefois le samedi, où j'ai essayé vraiment de trouver chaque fois un moment pendant la semaine pour faire des cours. Et pour moi, c'était essentiel parce qu'en fait, je dois dire aussi que l'école nous donnait aussi quelques heures de français, mais c'est normal que ce n'est pas suffisant, surtout si une personne comme moi n'a jamais étudié la langue. Quand j'ai déménagé à Paris, j'ai commencé à avoir un peu des souvenirs de mon expérience à Nice. Et du coup, je pouvais vraiment comprendre ce que les personnes me disaient, mais bien sûr, j'avais vraiment besoin d'une base grammaticale. Et du coup, avec tes cours, c'était vraiment nécessaire, c'était la base pour apprendre le français. Et ça, pour moi, c'était vraiment important parce que je savais parfaitement qu'au début de mars, ou aussi déjà en février, j'aurais eu des entretiens en français.
Ouais, donc tu avais les cours mais dans un groupe avec ton école, des cours de français dans un groupe. Donc c'est vrai que dans un groupe, on peut-être moins pratiquer. Donc tu avais quand même déjà ça, plus les cours particuliers avec moi. Et en dehors de ça, tu étais toujours aussi en train d'essayer d'écouter du français, de pratiquer, ouais. Voilà, beaucoup de choses, ouais. pour accélérer un peu l'apprentissage.
Oui, en fait, je dois dire que pour moi, une chose très importante était d'écouter chaque matin quand je me réveillais. Moi, j'écoutais chaque fois la radio et ça m'aidait vraiment beaucoup. Et aussi, par exemple, sur Netflix, j'ai regardé une autre fois des séries que je connaissais vraiment bien en italien ou en anglais. Et ça m'a aidé beaucoup, surtout avec les subjonctifs, parce que ils sont des expressions qu'on va entendre beaucoup, et oui.
Mm-hmm. Donc, tu as beaucoup travaillé sur, ouais, sur l'écoute. Donc, écouter
oui.
du français pour apprendre d'une manière un peu plus, peut-être naturelle. Comme tu le disais avec le subjonctif, au bout d'un moment, à force d'entendre, par exemple, je sais pas, il faut que j'aille. Voilà, on sait que aille,
oui.
c'est le subjonctif de aller. Ok, super. On arrive au mois de février, mars. Donc là arrivent les premiers entretiens.
Oui.
Comment ça s'est passé, donc les entretiens pour trouver un stage?
Je dois dire qu'au début, moi, j'étais extrêmement inquiétée pour la langue. Et c'est bizarre parce qu'à la fin, ça, c'était pas un problème du tout. Mais la raison, c'était pas parce que moi, j'étais géniale en français, absolument pas du tout. Mais c'était seulement que je me suis rendu compte que c'était un problème surtout psychologique. Parce que vraiment, surtout pour faire des entretiens, pour des stages, au moins les premières questions que les RH vont te poser sont en général un peu tout pareilles. Parce que c'est surtout sur la motivation pour laquelle tu veux faire le stage, ou par exemple, qu'est-ce que tu as fait avant, quelles sont tes expériences, pourquoi tu es à Paris, pourquoi tu veux travailler dans la mode. Et bien sûr, les entretiens étaient un peu plus compliqués quand on arrivait vraiment en face du manager.
Oui. Mais déjà, est-ce que c'était difficile de trouver les, enfin, d'avoir des entretiens?
Non, c'était pas facile de recevoir des réponses. Mais je dois dire, et ça, c'était en fait la raison pour laquelle je voulais vraiment étudier à l'Institut français de la mode. C'était important d'avoir l'Institut français de la mode dans notre CV. Quelquefois, ils voulaient vraiment t'appeler parce qu'ils voyaient que tu étais en train d'étudier dans cette école.
C'est une école qui a une très bonne réputation pour ce domaine.
Oui. Et du coup, oui, c'était normal. Franchement, en général, chaque fois qu'on cherche un travail, un stage, un CDD, un CDI, c'est important d'envoyer beaucoup, beaucoup de candidatures. Parce qu'on sait que quelquefois, la candidature ne va pas avoir une réponse, pas forcément parce qu'ils ne sont pas intéressés à toi, mais c'est seulement qu'ils vont recevoir trop de CV. Et du coup, c'est un peu difficile aussi pour ça de recevoir des réponses. Alors moi, j'ai envoyé des candidatures exactement comme des autres étudiants, indépendamment de l'université. Mais l'école, il avait aussi organisé 2 ou 3 journées où des entreprises venaient en fait à l'université. Et si tu voulais, tu pouvais faire des entretiens avec des RH. Et c'était vraiment une grande chance que l'université t'ait donné. Parce que par exemple, moi, pendant un de ces jours, j'ai eu la possibilité de parler avec des RH chez Saint Laurent. C'est là où j'ai découvert l'existence d'un des programmes chez Saint Laurent qui était en collaboration avec l'université. Par exemple, c'était une chose que je ne voyais pas sur le site de Saint Laurent parce que c'était un projet un peu plus spécial entre Saint Laurent et l'université de l'Institut français de la mode. Après ça, c'est normal que c'est toi en face des RH, c'est toi qui dois passer avec le succès l'entretien, mais c'était vraiment une grande possibilité, une grande chance.
Oui, les grandes maisons viennent directement à votre rencontre déjà, donc c'est une première étape, un premier contact qui peut se faire un peu plus facilement que si tu envoies ton CV. Là, il y a déjà cette première rencontre qui peut faciliter les choses. Oui.
Oui, absolument. En fait, en général, quand on avait ce moment à l'université, on rencontrait seulement les RH. Et après, s'il était intéressé à ton profil, tu étais recontacté. Et en fait, moi, c'était comme ça que j'ai eu des autres entretiens après avec des autres marques. À la fin, j'ai été acceptée par Saint Laurent. Et c'était dans le département de collection merchandising pour le prêt-à-porter femmes.
Et ça consistait en quoi, en quelques mots? Qu'est-ce que c'était ton travail?
Bon, alors en fait, mon travail, c'était pas vraiment loin de ce que je faisais chez L'Oréal. C'était une autre fois vraiment focalisé sur des analyses. Après, il y avait un peu plus en partie, un peu plus qualitative sur les études des tendances dans les marchés, de la mode. Et après, il y avait un peu tout aussi en partie très opératif pendant la préparation du showroom. Et oui, c'était génial. J'avais une équipe où la majorité des personnes étaient françaises. Il y avait aussi des gens qui venaient des autres pays.
D'accord. Et c'était pas trop difficile justement de travailler en français?
Oui, au début c'était vraiment difficile. Ouais. C'était plutôt moi qui j'avais vraiment peur de ne pas être claire avec ma chef. Mais en fait, moi j'ai parlé beaucoup de fois avec elle de ça parce que j'avais vraiment peur qu'elle ne me comprenait pas et tout ça. Mais c'était pas vrai. Bien sûr, au début j'étais beaucoup plus lente par rapport à la fin de mon stage. Vraiment, à la fin de mon stage, j'avais l'impression que le français était presque parfait, mais bien sûr, c'était pas comme ça. À la fin, le plus que tu travailles, le plus que tu vas avoir une confiance en toi qui est plus fort.
Ouais. Et tu devais écrire des emails en français aussi?
Oui.
Ça devait être un peu stressant au début, j'imagine. Et puis bon, après, voilà, tu t'habitues comme tout.
Oui, en fait, au début, c'était un peu difficile, surtout pour la vitesse avec laquelle je voulais vraiment le faire. Et bien sûr, je n'avais pas la même vitesse que j'avais à la fin. Mais je dois dire aussi que ça devient aussi une habitude après quelques temps.
Ok. Et alors, pour terminer, est-ce que tu aurais des conseils à donner à quelqu'un qui voudrait travailler dans le secteur de la mode à Paris?
Bon, alors, dans le cas que la personne ne parle pas français, comme moi, je dirais vraiment, ne vous inquiétez pas, parce que franchement, quand on veut quelque chose avec tout notre corps, c'est toujours possible de l'avoir, et surtout pour la langue française, c'est normal qu'on doit l'étudier beaucoup, mais à la fin, avec beaucoup de pratiques, tout est possible.
Ouais, donc rester motivé, croire en soi, oui. Tout est possible.
Absolument,
ouais.
Absolument.
Et alors, pour travailler dans la mode à Paris ou en France, c'est important donc de parler français.
Oui, je pense que c'est toujours mieux de montrer, quitte à essayer vraiment de l'apprendre. Moi, j'écrivais chaque fois sur les CV toutes les heures que j'ai étudié le français pendant la semaine. Et beaucoup de fois, pendant les entretiens, les personnes les regardaient, elles me disaient, vraiment, tu étudies le français 20 heures par semaine? Et moi, je les disais, oui, c'est comme ça. Peut-être à la fin, l'entretien peut être aussi en anglais. Ça, c'est pas important, mais c'est important qu'il voit, qu'il t'a vraiment toute la motivation de faire ça. Parce qu'à la fin, pour travailler dans la mode, la partie la plus difficile, c'est d'être capable d'arriver au moment de l'entretien. Mais une fois que tu es en train de passer l'entretien, c'est vraiment ta motivation qui compte le plus. Et bien sûr, ils vont demander des qualités, des choses spécifiques, mais en général, c'est la motivation qu'ils vont chercher parce qu'ils ont beaucoup, beaucoup de monde qui veut travailler pour ces maisons.
Ouais. Ok, bah merci beaucoup Louisa d'avoir partagé tout ça avec nous, c'était hyper intéressant. Je suis sûre que tu as envoyé beaucoup d'énergie positive à tous les gens qui apprennent le français et qui ont peut-être un objectif comme toi d'aller étudier en France et peut-être étudier la mode aussi, donc merci beaucoup.
Merci à toi.
C'était un plaisir de t'avoir. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à très bientôt. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cet épisode. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver la transcription sur mon site parisoclock.com. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram. Avec chaque post, je vous donne une nouvelle pièce de puzzle pour vous aider à mieux comprendre la langue et la culture française. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à me le dire en commentaire sur mon site ou sur Instagram. Ça me fait toujours très plaisir de lire vos commentaires. Et comme je le dis souvent, ce sont vraiment vos commentaires qui me motivent et qui m'encouragent à continuer d'enregistrer de nouveaux épisodes chaque semaine. Allez, à bientôt les amis !